Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce deuxième week-end de reconfinement. La période que l'on vit n'est pas simple, mais ici, point de morosité. De 9h15 à 10h sur RTL chaque semaine, nos invités éclairent avec le sourire les consommateurs avertis que nous devenons grâce à cette émission. Sommaire du jour. On peut toujours acheter des crèmes anti-rides. Elles font partie des produits de première nécessité. C'est le gouvernement qui le dit. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est autorisé. L'occasion de nous demander si elles marchent vraiment, ces crèmes qui nous promettent une jeunesse presque éternelle. Toute la vérité, rien que la vérité, avec le docteur Laurence Netter, dermatologue spécialisé en dermatologie esthétique et laser. Ils font désormais partie de notre quotidien, même si on espère ne plus en avoir besoin courant 2021. Réponse à toutes les questions que vous vous posez sur les masques, et notamment ceux de nos enfants, avec Armel Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Nous sommes les deuxièmes plus grands consommateurs de pizza au monde, derrière les États-Unis avec 10 kilos par an et par personne. Mais les produits industriels, c'est pas trop notre truc, nous, dans Nous Voilà Bien. Alors, comment faire une bonne pizza maison? On se met au fourneau avec Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire. Bonjour, docteur Laurence Netter.
Bonjour, Flavie.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Merci pour votre fidélité à nos questions. Vous êtes dermatologue spécialisé en dermatologie esthétique et laser. Le marché des crèmes s'est ouvert aux hommes depuis quelques années, dites donc. Les conseils qui vont suivre, elles s'appliquent donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes? Même combat?
Ah, même combat. La problématique est tout à fait comparable sur le vieillissement. Simplement, les hommes sont encore moins demandeurs. Mais on a déjà des hommes qui commencent à nous poser des questions sur les crèmes à mettre le matin, le soir et la routine journalière.
Et pourquoi pas. Comme si, effectivement, ça n'était qu'un univers réservé aux femmes. C'est quoi la différence entre une crème anti-rides et une crème anti-âge? Je me suis toujours posé la question et je navigue entre les deux, pour être sincère.
La crème anti-rides, comme son nom l'indique, ce sont des crèmes qui n'ont une action que sur les rides. Pas forcément, d'ailleurs, sur la prévention des rides. Ça peut juste être une crème qui floute l'aspect extérieur des rides.
D'accord.
Une crème hydratante, par exemple, comme ça hydrate la peau, ça donne un aspect un peu rebondi. Et en soi, c'est une crème anti-rides. Ça n'est pas de la prévention. Les crèmes anti-âge, ce sont des crèmes qui revendiquent une action globale sur l'ensemble des signes de vieillissement. Alors, on entend par vieillissement toujours la même chose, le vieillissement intrinsèque, c'est-à-dire celui lié à l'âge, et le vieillissement extrinsèque lié aux facteurs extérieurs, les UV, la pollution, le tabac. Et donc, ce sont des crèmes qui ont un rôle sur les rides, sur le relâchement, sur la tonicité, sur les taches, sur la sécheresse. Ce sont des crèmes qui ont une action beaucoup plus globale.
Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut mettre les deux pour essayer à la fois de flouter et d'avoir effectivement un effet sur l'ensemble du visage?
C'est plus un nom marketing pour faire vendre. On est toujours dans la même problématique. Et puis maintenant, d'ailleurs, on a inventé d'autres noms de crèmes qui sont les crèmes où on fait référence à l'âge, la réjuvénation, la sublimation, le lixique. Mais bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Et on utilise toujours les mêmes principes actifs. Simplement, c'est vrai que dans la simple crème anti-rides, on peut juste avoir des crèmes avec des épaississants de la silicone qui floutent un petit peu la ride et qui n'a pas d'action préventive sur l'âge.
D'accord. Alors, vous parliez de principes actifs. Justement, qu'est-ce qu'elles contiennent, toutes ces crèmes?
Alors, les principes actifs, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, on en découvre tous les jours. Ils revendiquent des actions et ces actions sont vérifiées. On a en première ligne tout ce qu'on appelle antioxydants. Les antioxydants, essentiellement la vitamine A, C, E, ce sont des produits qui diminuent les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des petits morceaux de cellules qui empêchent les cellules de bien se multiplier. Ensuite, vous avez des boosters de renouvellement cellulaire. C'est le rétinol, ce sont les peptides, ce sont les acides de fruits. Et puis, les écrans sont aussi des crèmes anti-rides puisque les UV font vieillir la peau. Tous les hydratants, évidemment, l'acide hyaluronique, l'urée. Il y a beaucoup de produits qui sont des principes actifs qu'on retrouve avec des concentrations et des formulations différentes suivant les marques et suivant les crèmes.
Vous savez, docteur Netter, il y a aussi les crèmes pour les yeux, les crèmes pour le contour des lèvres. Enfin bon, on pourrait avoir une crème pour chaque partie du visage. Est-ce que ça, c'est justifié ou est-ce que finalement, je peux prendre mon anti-rides pour les yeux et me le mettre sur le tour de la bouche et vice-versa?
Il n'y a absolument pas de principes actifs qui sont spécifiques du tour de la bouche, du coin des yeux. Vous pensez bien, ça ne se passe pas
oui,
comme
j'imagine
ça.
Bien.
Simplement, sur le contour des yeux, il y a un petit bémol quand même. La peau est fine, elle est fragile. C'est un endroit qui donne beaucoup plus fréquemment des allergies que sur la joue. Et donc, les formulations contour des yeux sont un petit peu différentes. Souvent, les principes actifs sont plus dosés. Mais par contre, il y a moins d'ingrédients parce que ce sont des endroits qui sont plus sensibles aux allergies. Les formulations également sont moins grasses parce qu'on les met le soir et le gras autour des yeux, ça peut donner des petites poches le matin. Le contour des yeux a une formulation différente, le reste, une seule crème suffit. Mais malgré tout, si vous avez l'impression que vous tolérez très bien en contour des yeux la crème que vous mettez le soir sur tout le visage, c'est pas utile d'acheter un contour des yeux. Il y a quand même, je vais me faire détester par l'industrie pharmaceutique, cosmétique, mais il y a quand même une grosse part de marketing. Par contre, ces produits sont efficaces et c'est sûr qu'il faut avoir une bonne routine et que sur la longueur, ça marche. Ou en tout cas, on voit la différence entre une peau virgule entretenue et une peau qui n'est même pas hydratée.
C'est quoi le principe contre le temps qui passe? C'est une super hydratation, docteur Netter. C'est ça qu'on entend aussi.
C'est déjà la base, l'hydratation. Une peau hydratée est une peau qui va mieux se renouveler. Ensuite, en fonction de la problématique, on peut ajouter si vous avez par exemple des taches, des produits éclaircissants, si vous avez tendance à travailler dehors toute la journée, il faut mettre des crèmes écran. Il faut adapter sa crème anti-rides à son type de peau. On a des crèmes aujourd'hui qui sont plutôt à viser relâchement cutané et d'autres crèmes qui sont plutôt à viser anti-rides. Ce sont des principes actifs qui sont différents. Et donc, il faut savoir choisir sa crème. Alors, on s'en sort pas mal en disant ce que les crèmes revendiquent, parce que une crème qui a un rôle sur le relâchement cutané, c'est une crème qui va surtout booster l'activité des fibroblastes pour faire fabriquer du collagène et de l'élastine. Si vous vous retrouvez un peu dans l'explication, achetez plutôt cette crème-là, mais à la base, déjà, l'hydratation. Et quand on est perdu, une consultation chez le dermatologue
exactement.
Qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, docteur Netter, parce que vous avez prononcé un mot intéressant, c'est urée. On parle beaucoup de la crème à l'urée. Alors évidemment, ça nous interroge. C'est quoi l'urée? C'est un rapport avec l'urine, hein. On va y revenir dans un instant. Ah. Et puis, c'est vrai, non?
Oui, c'est vrai.
Ouais, l'urée, moi, je veux comprendre.
Bon, l'urée et l'urine, c'est pas du tout pareil.
Non, mais je sais bien, mais vous allez nous expliquer ça dans un instant.
Tout à fait.
Et puis, on s'interroge. Voilà, il y a certains pots quand même qui dépassent parfois les 100 euros. Alors, est-ce que c'est vraiment parce que ça coûte si cher que c'est performant? On y reviendra dans un instant. On lutte contre le temps qui passe sur l'antenne d'RTL avec le docteur Laurence Netter.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur l'antenne d'RTL. Armel Lévy, dans un instant, va nous permettre de faire un point sur le masque. Ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Mais ce qu'on nous disait au moment du premier confinement, ce n'est pas forcément ce qu'on nous dit au moment du deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en parlera avec elle. On fera un petit point sur la situation. On parlera pizza aussi avec Ligori Lecomte parce que ça va, hein, la malbouffe. Hein. On peut se faire des super bonnes pizzas à la maison. On fait ça en famille. C'est délicieux. Viva l'Italia. Et puis Laurence Notaire nous permet aussi d'avoir l'air de petits genoux. C'est dommage, on peut pas sortir, mais on peut faire attention au temps qui passe.
Je veux qu'on me crème, une caresse bien mieux qu'un diadème.
Moi aussi, je veux qu'on me crème, docteur Netter. Je veux qu'on me crème et je veux m'intéresser aujourd'hui aux crèmes, justement, dont on dit qu'elles sont anti-rides, anti-âge et que je vais retrouver la fraîcheur de mes 20 ans. La crème à l'urée, c'est tendance. Alors déjà, c'est quoi l'urée, docteur Netter?
L'urée, c'est un composant de ce qu'on appelle l'hydratation normale de la peau. C'est un composant qui est très intéressant parce que l'urée retient l'eau. Et donc, mis dans une crème, il va compenser les pertes physiologiques en eau de la peau. L'eau s'évapore de la peau de façon très importante en fonction de la température extérieure. Il faut que la peau reste hydratée. Donc, quand on met de l'urée dans une crème, c'est un produit qui a un gros pouvoir hygroscopique de retenir l'eau. Et donc, c'est un produit actif qui est très efficace dans l'hydratation. Il y a des marques qui en ont fait leur principe actif le plus important. Alors, en plus, en fonction de la concentration de l'urée, on a des effets sur la peau qui sont un peu différents. À faible concentration, c'est surtout un produit produit qui est hydratant. Et si on augmente la concentration, c'est un produit qui est exfoliant doux. Et quand on augmente vraiment la concentration, on enlève les callosités, par exemple. On améliore les callosités qu'on a sous les pieds. Donc, certains laboratoires ont une crème allurée pour le visage, qui est une crème hydratante, une crème allurée à 10% pour le corps, qui est également une crème hydratante. Et puis, pour les mains, les pieds, on augmente la concentration de l'urée. C'est D'accord. vraiment un facteur d'hydratation important, puis c'est surtout un facteur naturel. Alors aujourd'hui, c'est très bio, le naturel, c'est très à la mode, mais là, on est en plein dans le mille. L'urée, c'est un produit naturel qui fait partie de la peau et qu'on peut rajouter en plus dans une crème.
Donc, vous le conseillez, en fait, j'ai l'impression de tourner terre.
Moi, j'aime bien l'urée, mais les dermatos sont très, très habitués à prescrire des crèmes à l'urée. Avant que la cosmétique soit ce qu'elle est aujourd'hui, on faisait des préparations à l'urée.
D'accord, donc qui dit urée dit une forme d'authenticité et efficacité. Il y a certains pots qui dépassent les 100 euros en matière de crème anti-rides. C'est quand même dingue, ça, ce prix-là, pour avoir des rides en moins. Plus une crème est chère, plus elle est performante.
Non, pas du tout. Franchement, là, on est dans le marketing pur. Il faut bien comprendre que la cosmétique, c'est une industrie de tous les jours, mais en même temps, une industrie du luxe. Et donc, c'est vrai que le fait de vendre une crème chère l'associe pour certaines personnes à l'efficacité. Mais il n'y a pas de lien entre le prix et l'efficacité. Certaines marques ont fait des crèmes au caviar, d'autres à la perle, de je ne sais pas quoi. Alors, c'est vraiment juste pour booster la sensibilité des personnes au luxe. Il n'y a absolument rien à voir entre le prix et la qualité de la crème. D'ailleurs, ce qui est important, ce sont les sociétés de recherche, et souvent, pour citer les grands groupes, que ce soit Lauder, L'Oréal ou d'autres groupes, ce qui est important, c'est la molécule qu'ils vont découvrir. Et ensuite, une fois qu'ils ont découvert une molécule efficace, ils vont la mettre soit à des concentrations différentes, soit dans toutes leurs marques. Donc ça va des marques de luxe aux marques que vous retrouvez dans les grandes surfaces. C'est la même molécule. C'est juste après le packaging, la senteur, l'efficacité n'a rien à voir avec le prix.
C'est dingue ce que vous nous dites. Bien. Donc ça veut dire que je peux avoir une crème anti-rides pas chère, enfin en tout cas, tout aussi efficace qu'une crème que je vais acheter 150 euros.
Absolument. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je le pense sincèrement.
C'est dingue. Vous avez des marques de crèmes accessibles comme ça qui pourraient aider nos auditeurs?
Le groupe L'Oréal, il fait le même ingrédient qu'il met dans le L'Oréal Perfection et qu'il met dans sa marque luxe qui est Lancôme. C'est la même chose, simplement le produit fini n'a peut-être pas la même senteur. La boîte qu'on va acheter, qui ne sert strictement à rien, n'est peut-être pas la même. Mais ce qui coûte cher, c'est la recherche. Ce n'est pas le produit qu'on met dans la crème. Il y a toutes les marques qu'on peut citer aujourd'hui. La Roche-Posay, Galénic, Avène. Ça, c'est pour la pharmacie. Mais même en grande surface, vous avez des marques qui sont tout à fait correctes. Mais il reste le plaisir quand même du packaging. La cosmétique, c'est un moment de plaisir, c'est un moment pour soi. Et il ne faut pas non plus dire que ça ne sert à rien. Ça fait partie également du plaisir. Des chaussures, vous les trouvez pas chères, vous les trouvez très chères. C'est peut-être pas le même plaisir. Ça, les deux, ça va marcher.
Dernière question, justement, docteur Netter, à quel âge commence-t-on à mettre de la crème anti-âge ou anti-ride?
Je crois qu'il faut déjà apprendre aux plus jeunes les bonnes routines. Les bonnes routines, c'est se laver le visage avec des produits doux et mettre une crème hydratante. Ensuite, bon, il n'y a pas d'âge, il y a des peaux qui résistent mieux au temps que d'autres. On va dire vers 20 ans, il faut compenser la perte d'eau qui commence à être un peu plus importante avec des produits hydratants. Bien se protéger la peau du soleil parce que le soleil, c'est un facteur de vieillissement extrinsèque. Et puis, on peut commencer à mettre des crèmes anti-âge avec des antioxydants en fonction de son type de peau, surtout les peaux claires, on va dire vers 25-30 ans. Puis, on les adapte. On a des gammes aujourd'hui qui sont adaptées à l'âge. Il faut avoir une routine de tous les jours avec une hygiène de vie. C'est pareil pour le vieillissement du corps. Aujourd'hui, on parle vraiment de routine. Choisir une crème qui vous convient, pas forcément la changer tout le temps. Je sais que souvent on nous pose la question, est-ce qu'il faut changer une crème? Non, si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Il faut éviter, moi je suis quand même assez étonnée de voir ces petits laboratoires qui fleurissent sur Internet avec des produits qui n'ont pas forcément été testés anti-comédogènes. On voit de plus en plus de produits avec des huiles essentielles qui donnent des allergies. Je crois qu'il faut rester très simple sur les marques qui ont fait leurs preuves et se faire conseiller. Même en pharmacie, il y a des conseillères qui sont très compétentes.
Eh bien, je vous remercie, docteur Laurence Netter, pour tous ces conseils que vous nous avez livrés ce matin. Je vais changer de crème et quand je sortirai du confinement, on ne me reconnaîtra pas ou on se dira « Waouh, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement ?» Et je dirais que vous m'avez livré de bons conseils. Merci à vous. Prenez bien soin de vous, docteur Laurence Netter. Et à bientôt.
Merci Flavie, bonne journée, à bientôt.
Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
C'est la fête avec vous ce matin, dites-moi. C'est
dingue. Oui.
Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL et vous allez nous parler des masques. Youpi, qu'est-ce qu'on est content. Et franchement, les masques, ils sont vraiment devenus, malgré nous, les grandes vedettes de cette année 2020. On n'en a pas fini avec eux. Cette fois, dites-moi, juste, on ne risque pas une pénurie comme la dernière fois.
Ah non, 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 non. Il n'y a aucun risque de pénurie. Au contraire, ce qui se passe, les grandes surfaces en ont tellement acheté quand elles ont pu en avril-mai qu'elles ont encore du stock. Et en plus, les stocks stratégiques de l'État ont été reconstitués depuis le mois de septembre. L'État dispose d'1 milliard de masques chirurgicaux FFP2, ce qui correspond à 10 semaines de consommation. Et imaginez, en mars, on était capable de fabriquer 3 millions de ces masques jetables par semaine. Aujourd'hui, c'est 20 fois plus. Et à la fin de l'année, ce sera 30 fois plus. On arrivera à 100 millions de masques à usage unique produits chaque semaine en France. Bon, c'est vrai, en même temps, on n'a pas fini d'en utiliser.
Bon, alors, on sait qu'on a les masques, c'est une chose. Maintenant, on va s'intéresser au prix, on va s'intéresser aux normes européennes. Bref, on va faire un update, comme on dit, et ce sera dans un instant sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bon, alors, c'est super, parce que grâce au docteur Netter et à tous ses conseils, on va perdre 20 ans. On a compris en tout cas que la meilleure façon de lutter contre le temps qui passe sur notre peau, c'est de bien l'hydrater et d'avoir une bonne hygiène de vie avant de s'acheter des crèmes à pas de prix. Juste après, on va avoir Ligori Lecomte, hein, qui va nous parler pizza. C'est chouette, on va voyager un petit peu à défaut de pouvoir sortir. Et puis Armelle Lévy, elle nous fait un point sur les masques. Ah ouais, trop splendide, hein. On est tellement canon, Armelle Lévy, avec nos masques, c'est super. Alors, on a compris qu'il n'y aurait pas de pénurie. Youpi, voilà une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'on a vraiment intérêt à être prudent aujourd'hui. Au niveau des prix, ils sont stables, il n'y a pas d'augmentation à prévoir?
Non, non, les prix sont même en nette baisse, hein. Avant, c'était réellement un problème pour le budget des familles, le prix des masques. Aujourd'hui, ce qui était encore inimaginable il y a 8 mois, on trouve des boîtes de 50 masques à 5 euros. C'est devenu un produit d'appel dans plusieurs grandes surfaces. La même boîte était vendue pas loin de 50 euros en mars dernier, presque 10 fois plus cher. Et comme tout le monde a besoin d'un masque, ils sont mis en avant, en tête de gondole pour faire venir les clients. Alors quand même, vous allez me dire que vous trouvez encore des boîtes de masques chirurgicaux à 25 euros.
C'est ce que j'allais faire.
Ça s'explique. Comme certains magasins en avaient énormément commandé en avril-mai, ils ont des stocks de l'époque. Et même s'ils vendent aujourd'hui à prix coûtant, c'était le prix coûtant de l'époque, des masques qui venaient par avion. Donc, ils restent très chers par rapport à toutes les commandes de masques plus récentes qui sont arrivées depuis par bateau. Maintenant, on peut dire que le prix du masque chirurgical que l'État a plafonné à 95 centimes au printemps dernier est bien retombé pour se rapprocher du prix des masques en tissu, à savoir entre 10 et 30 centimes à l'usage.
Bon, on reviendra sur les masques en tissu dans un instant. C'est quoi un masque aux normes européennes?
C'est un masque avec le marquage CE ou la norme NF sur la boîte qui respecte les normes de protection en vigueur et qui garantit la protection des consommateurs. Quand on a connu une pénurie de masques, on en a importé des États-Unis et même de Chine avec des normes différentes, mais qui nous protégeaient quand même. En fait, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'en acheter sur Internet ou sur des marchés, dans des bazars à 3 euros la boîte si vous ne savez pas d'où ça vient. Si vous n'êtes pas sûr de son origine, vous ne serez pas sûr de son efficacité.
Alors, quid des masques maison, justement, puisqu'ils sont toujours en tissu?
Alors, vous pouvez toujours confectionner vos masques vous-même, c'est sécurisé si vous suivez les normes édictées au printemps par l'AFNOR, l'organisme qui certifie la qualité des masques. Vous trouvez des tutoriels sur Internet, mais si vous n'appliquez pas ces consignes de fabrication, c'est moins sécurisé. Ça dépend aussi de la matière première. Il ne faut jamais en confectionner avec des sacs à aspirateur ou des filtres à café.
Mais oui, je précise. Mais ceci dit, il y a des gens qui l'ont fait.
Mais oui, on les a vus en tuto sur Internet. Et puis, il doit bien s'adapter à votre visage. Alors moi, j'ai été gâtée. J'ai des amis bonnes couturières qui m'en ont fabriqué en tissu, des super beaux. Mais il y en a un qui me tombe sur le nez et un autre qui me serre trop les oreilles. Donc, vous voyez,
c'est difficile, effectivement, d'être très confort dans des masques en tissu fait maison. Et à propos de masques en tissu, vous avez entendu parler de ceux de la marque Dime qui contiendraient des substances toxiques. Qu'en est-il réellement?
Ah oui, c'était des masques qui étaient exclusivement distribués par l'État l'État à ses fonctionnaires, en particulier aux enseignants. Ils étaient traités comme pour des vêtements de sport avec des zéolithes d'argent et de cuivre, des particules antimicrobiennes pour éviter le développement de germes et de moisissures. Sauf que c'est une substance controversée qui, là, était vraiment en contact avec la bouche et le nez. On peut l'inhaler. Donc ces particules ont fait l'objet d'une réévaluation des risques au niveau européen. Et comme on attend les conclusions d'ici plusieurs mois par précaution, par prudence, l'État a retiré tous ces masques douteux. Et la marque dit aussi, il ne faut plus les utiliser.
Est-ce qu'il existe une réglementation sur le traitement chimique justement des masques ?
Comme tous les produits mis sur le marché, hein, vous voyez bien, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors du moment où il y a un doute sur l'innocuité des substances, ils ne sont pas commercialisés. En revanche, vous pouvez être assuré, les masques sont testés en laboratoire avant d'être vendus. Ils sont évalués à la fois sur leur capacité filtrante et sur la facilité à respirer dans ce masque. Par exemple, si un masque est très filtrant mais faiblement respirable, on court le risque que ce masque soit mal utilisé, on dégage le nez, on le porte de travers. Et c'est là-dessus que portent les tests en laboratoire.
Et il s'est dit tout et son contraire en fait, hein, sur les masques. Maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, quelle différence y a-t-il entre les masques en tissu, les masques chirurgicaux, les FFP2, les FFP3. On a l'impression qu'on a un choix, vous voyez. C'est comme chez le chocolatier, on peut choisir.
En réalité, les masques atteignent quasiment tous maintenant le même niveau de filtration, autour de 90%. La grande différence, c'est que les masques en tissu, comme les masques chirurgicaux, ne vont filtrer que dans un sens. Ce sont des masques anti-projection. Je ne vous postillonne pas dessus quand je vous parle. Ils ne vont pas filtrer l'air que j'inspire. Les masques FFP2 et FFP3, eux, sont des masques qui vont filtrer dans les deux sens, en expirant et en inspirant. C'est pour cela qu'ils ont une forme beaucoup plus resserrée sur les joues, ils collent plus au visage.
Les masques, ils ont une date de péremption ?
Alors oui, j'ai vérifié, c'est indiqué. Mais vous avez le temps pour les masques chirurgicaux, vous pouvez les garder 3 ans. En fait, c'est surtout pour l'élastique, parce qu'au fil du temps, ils perdent leur élasticité.
Oui, donc à la limite, il suffirait de changer l'élastique et on peut quand même les utiliser.
Oui.
Donc ça, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il faut systématiquement jeter des masques en tissu après 10 lavages ?
Alors,
parce que parfois, pardon Armelle, mais on n'a pas l'impression qu'ils soient jetables. Enfin, on a l'impression qu'ils sont toujours efficaces.
En fait, il faut se référer au conseil du vendeur remarqué sur la notice. Ça peut être 10, 20, 30 lavages. Mais après, c'est à vous, c'est vrai, d'évaluer si le masque vous tient encore sur le visage correctement. S'il se détend, s'il tombe sous le nez, il ne faut pas trop insister car le masque vous protège vous, mais il protège aussi les autres. Et c'était le risque avant, avec des masques à prix élevé. On les gardait aussi trop longtemps, au-delà du raisonnable, parce qu'ils coûtaient cher. Maintenant, ceux qui gardent leur masque trop longtemps en tissu, c'est parce qu'ils sont devenus un accessoire de mode. On se dit, autant le garder, il est beau. Mais il faut vraiment les jeter avant qu'ils soient quand même tout déformés.
Il paraît que les masques jetables, ils seraient en fait eux aussi lavables et réutilisables. C'est une info ou une intox ?
Apparemment, oui, c'est le cas, mais pas en machine. Il y a des travaux qui sont menés sur le sujet aux États-Unis. Des chercheurs ont trouvé un traitement ultraviolet qui permet de désinfecter des masques jetables pour pouvoir les réutiliser. Mais ce n'est pas un conseil que je vous donnerai, on ne va pas brouiller le message. Un masque jetable, il est jetable et donc à usage unique par définition. En tout cas, ils ne sont pas lavables à la machine à laver.
Bon, en tout cas, grosse nouveauté quand même, là, dans ce nouveau confinement, c'est que les enfants doivent porter des masques. Où est-ce qu'on peut acheter des masques pour enfants, Armelle Lévy, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont toujours pas trouvé ?
C'est quand même le parcours du combattant. Depuis lundi dernier, depuis la rentrée, vu qu'ils sont obligatoires à partir de 6 ans, c'est vraiment compliqué d'en trouver, à tel point que certaines municipalités ont décidé d'en offrir aux enfants. Autrement, alors, vous pouvez les trouver dans les pharmacies et dans les grandes surfaces, mais les masques pour adultes jetables, même s'il y a deux tailles, sont trop grands pour les enfants. Vous pouvez éventuellement faire un nœud derrière les oreilles en attendant de trouver un vrai masque adapté à la taille de votre enfant. Les plus faciles à trouver sont les masques en tissu pour enfants. Ils sont lavables jusqu'à 30 fois en fonction des marques. Et il faut en prévoir deux par jour, pour le matin et un autre pour l'après-midi. Et ça me rappelle une petite blague. Une maman qui voit rentrer son enfant le soir, mais ce n'est pas le masque que je t'avais donné ce matin. Non, celui-là est bien plus cool. Je l'ai échangé avec Dylan, qui l'avait échangé avec Bastien. Donc on rappelle aux enfants, chacun son masque.
Chacun son masque, évidemment. On change son masque toutes les 4 heures. Pour les masques en tissu, c'est aussi de le changer toutes les 4 heures et le laver entre chaque usage, 60 degrés, programme coton.
C'est ça.
Merci beaucoup, Armelle Lévy, d'avoir été avec nous pour ce petit rappel donc sur les masques en ce samedi matin. Vous aimez la pizza ?
Ah, j'adore.
Vous sentez comme ça, cette odeur comme ça de pâte, de fromage là, qui frémit dans le four. Vous sentez ?
Oui, j'adore.
C'est Grégory Lecomte, il sera avec nous dans un instant, il va nous faire de la pizza. Je vous embrasse, Armelle.
J'enlève mon masque pour pouvoir en grignoter un morceau.
Et pour sentir cette bonne odeur. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Finalement, l'odeur vous est... à l'échière, ma Lévi, je garde avec moi.
Ah oui, je suis gourmande, vous savez, moi.
Mais c'est incroyable, à chaque fois que vous êtes dans cette émission, vous voulez tout rester sur la partie cuisine. Et surtout quand on vous dit que c'est Ligori Lecomte qui va nous apprendre à faire des bonnes pizzas maison. Allez, on l'accueille tout de suite.
On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi.
Alors nous ici, dans Nous Voilà Bien, Armel Lévy, on ne commande pas des pizzas, ou alors on appelle Ligori Lecomte, voilà, ou alors on les fait soi-même, ces pizzas. Bonjour Ligori.
Bonjour Flavie, bonjour Armel, quel accueil.
Bonjour.
Que dis-je, buongiorno Ligori, comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Ben, ça va super, merci. Vous êtes chef du site cuisineaz.com, vous êtes auteur culinaire. Armel Lévy, les auditeurs et moi-même adorons les pizzas. Et c'est vrai que si Benabar il commande de la pizza, en fait, nous on se dit qu'on peut la faire nous-mêmes.
Bah oui, exactement, c'est même meilleur quand on la fait soi-même.
Pourquoi c'est considéré comme de la junk food la pizza?
Alors c'est souvent considéré voilà, comme de la junk food. Pourquoi? Parce que bah, comme vous l'avez dit, c'est rapide à commander, ça peut se manger sur le pouce, ça plaît aux jeunes et aux moins jeunes, ça peut être un petit peu gras, donc on peut la mettre là-dedans. Moi je préfère garder ce côté un petit peu convivial du plat, et puis savoir que ça peut être aussi un petit peu plus équilibré qu'on le pense.
Vous en commandez, vous, Armel Lévy?
Mais oui, parce que ça plaît à toute la famille, c'est exactement ça.
Mais alors vous en commandez ou vous les faites, Armel?
Ah non, moi je les commande, mais ça va changer, hein, je vais écouter, ça va changer.
Très bien, alors le problème encore une fois, ce sont quand même ces fameuses pizzas industrielles, Ligori Lecomte.
Ouais, ça c'est sûr. Là, on va dire que l'emballage est parfois attirant, les prix peuvent être un petit peu attractifs, mais bon, bien souvent, vous avez plus de pâtes que de garniture dedans. Les ingrédients, souvent quand on voyait leur tête, pour certains, on se demande s'ils sont pas sortis de l'aile ou la cuisse, vous voyez, de chez Tricatel, là, c'est souvent des faux fromages, le jambon, on sait pas d'où il sort. Et puis après, bon bah voilà, entre les matières grasses, les émulsifiants, les additifs, et j'en passe. Alors, en général, il faut éviter et puis la faire soi-même.
Est-ce que ça peut être un plat équilibré?
Oui, après, bah, tout va dépendre forcément de ce que vous allez mettre dessus. Hein. C'est sûr que la pizza douce fromage, ça sera un peu moins équilibré. Et puis après, c'est même pour l'accompagner, en fait. Là, vous oubliez le pain, la salade de pâtes, etc. Vous avez déjà assez de sucre complexe. Mais si vous accompagnez ça avec des crudités et une bonne salade à côté, ça peut être équilibré.
Alors, ces avantages et ces inconvénients nutritionnels majeurs, c'est quoi?
Déjà, une pizza, on approche, Armel pourra peut-être confirmer, mais des 900 calories par pizza. Donc, bon, faut faire un petit peu attention. Et puis, après, il faut faire attention un petit peu aux protéines. Tout ce qui va être jambon cru, lardon, etc. Il faut essayer d'en mettre en quantité raisonnable ou bien privilégier plutôt les viandes maigres. Je pense qu'il vaut mieux manger un petit peu plus de pizza, d'en manger une part. Et bien l'accompagner, comme on le disait, avec une salade à côté, plutôt que d'en manger une tous les 15 jours et de manger une pizza complète et d'en faire un seul repas juste avec votre pizza. Donc, de toute façon, le souci, hein, c'est d'en manger un petit peu moins pour manger un petit peu plus souvent et bien l'accompagner.
Alors, l'avantage, parce que vous allez nous donner justement des recettes de pizza, l'avantage, c'est que c'est un plat super facile à cuisiner. On n'a pas besoin d'être un cordon bleu pour faire une bonne pizza.
Non, non, vraiment, la pâte à pizza, c'est pas très, très compliqué à faire. Et puis après, bah, ça va être vraiment la grosse liberté de votre imagination à faire seul ou avec vos enfants, famille, ce que vous allez mettre dessus, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de code à la maison, vous allez faire vraiment ce que vous voulez mettre dessus. Quoi.
Ce qui me bloque, moi, c'est le four. Est-ce qu'il faut un four à pizza vraiment pour faire une bonne pizza?
Alors, pas forcément, mais par contre, le petit conseil que je peux vous donner pour vous rapprocher d'un four pro, on va dire, c'est de le mettre vraiment assez fort. Il vaut mieux la faire cuire un petit peu moins longtemps, mais sur un four très très chaud.
D'accord, four très chaud et avec une pâte spéciale ou pas? Parce qu'on nous parle, il y a les pâtes feuilletées, les pâtes brisées, les pâtes à pizza, c'est quoi la différence?
Ah ouais, alors tout ça, c'est un petit peu différent. Brisé, je vous avoue, j'ai jamais testé avec une pizza, mais bon, pourquoi pas, ça peut être une recette très originale. Ça se côté un petit peu sableux, vous savez, le beurre est intégré directement dans la pâte. La pâte feuilletée, ça peut être très bon aussi pour faire une pizza un petit peu originale, avec toutes ces strates de beurre entre chaque couche de pâte. Vous avez ce côté friable, moi j'adore par exemple avec des oignons, des anchois, quelques olives, un peu façon...
ça fait un peu flamme cuche, cette histoire.
Alors ça, non, c'est un vrai. Peu. Mais alors, par contre, la pâte à pizza, ça va vraiment être une pâte levée où la levure, elle a le temps vraiment de pousser et d'aérer la pâte, elle va être un petit peu plus élastique. Et c'est un petit peu là ce qu'on va rechercher pour la pizza traditionnelle.
Il y a une pizza qui crée la polémique, un petit peu, je dirais, qui divise. C'est la pizza hawaïenne, vous savez, avec des morceaux d'ananas. Est-ce qu'on peut faire des pizzas un peu sucrées aussi?
Je vous avoue que j'adore la pizza, j'adore l'ananas, mais les deux ensemble, c'est pas possible pour moi.
c'est une question de goût en même temps.
Oui, voilà, après, il y a vraiment des gens qui vont apprécier ça. Moi, je suis pas fan, je suis du côté qui n'approuve pas cette recette.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des pizzas sucrées.
Oui, bien sûr, mais même avec les enfants, en dessert, en ce moment, vous voyez, poire chocolat, par exemple, on pourrait très bien faire une petite pizza pour un dessert, sans souci. Hein.
Vous êtes plutôt salé ou sucré, Armel Lévy?
Ah ben, plutôt salé pour les pizzas, mais poire chocolat, j'avoue que ça me tombe bien.
Eh bien, vous allez nous donner quoi? Des recettes salées ce matin, Ligori Lecomte?
Oui, je vais vous donner deux petites recettes salées, voilà. comme ça.
Allez, on vous écoute, on met notre toque de chef et nos auditeurs vont prendre note. C'est parti.
Alors la première petite recette justement, c'est la pâte à pizza. C'est toujours mieux de la faire soi-même, donc c'est vraiment très très simple. Il va vous falloir 250 g de farine, 15 centilitres d'eau froide, une pincée de sucre en poudre, un petit peu de sel, et puis alors 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'eau chaude, et puis 15 g de levure fraîche de boulanger. Pour la réaliser, vous allez commencer par vous occuper de la levure. Donc vous allez la délayer dans une petite tasse avec l'eau chaude et puis le sucre. Vous mélangez un petit peu, puis vous laissez ça reposer pendant environ 20 minutes. Comme ça, le sucre et la levure, ça va travailler, ça va bien agir, et vous laissez ça vraiment tranquillement. Et puis ensuite, vous prenez un saladier avec la farine, vous mettez votre sel dedans, vous faites un petit puits au centre, et puis voilà, vous versez votre levure avec l'eau et l'huile d'olive. Vous malaxez avec vos petites mains gentiment, voilà, tout ça. Vous ajoutez l'eau froide. Vous malaxez bien votre pâte, que ça soit bien lisse et homogène. Et puis alors après, vous laissez un torchon humide au-dessus de votre pâte, puis vous laissez ça pendant au moins une heure. Ça serait très bien à température ambiante. Si vous laissez un petit peu plus, c'est bien aussi. Mais une fois que vous avez laissé passer une heure, vous allez voir que votre pâte a bien gonflé. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est la dégazer. En la frappant un petit peu, en la tapant énergiquement. Et puis après, bah, il vous restera plus qu'à la pétrir rapidement, l'étaler sur un plan de travail fariné. Et puis alors vous l'étalez soit en disque, soit en rectangle. Je vous laisse libre cours aux formes de votre pizza. Et puis après, bon, on va pouvoir la garnir avec d'autres petites recettes.
J'ai bien entendu, il faut du sucre.
Oui, en fait, je mets toujours un petit peu de sucre pour voir ce que ça va faire développer la levure un peu plus facilement. Donc, alors le sel, en fait, ça va plutôt attaquer la levure, mais le sucre, ça va plutôt l'aider à se développer.
On en a fini des recettes ?
Alors maintenant que vous avez la pâte, moi, je vais vous proposer une petite recette originale, justement, pour sortir un petit peu des sentiers battus. Moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser une petite purée de butternut, puisque là, on est encore dans la saison. Donc, bon, assez facilement, hein, vous faites cuire vos carrés, vos petits dés de butternut à l'eau, tout simplement, dans une eau bouillante salée. Une fois que votre purée est prête, vous allez la délayer avec un petit peu de crème. À côté de ça, vous allez préparer des oignons que vous allez faire caraméliser. Vous taillez votre oignon, vous l'émincez en tranches, puis vous le faites revenir avec un tout petit peu d'huile d'olive, un petit peu de miel. Vous faites caraméliser tout ça et vous les gardez pareil, gentiment sur le côté. On peut y ajouter aussi des champignons, donc champignons de Paris ou autres, hein, là, ce que vous avez près de chez vous. Donc vous les faites bien sauter dans une poêle bien chaude. Pour le fromage, je vais y mettre du morbier. Donc là, je vais tailler en petits dés. Pareil, je prépare ça et je le mets dans un petit bol en attendant. Je concasse quelques noix et puis après, je vais garder un petit peu de persil plat haché que je garde pour la fin. Et donc là, vous avez tous vos éléments. Sur la pâte à pizza qu'on vient de faire, vous étalez votre purée de butternut. Vous y mettez vos oignons caramélisés, les champignons sautés, des dés de morbier, quelques noix. Vous enfournez ça donc à 230 degrés pendant environ 15 minutes. Hein, en fonction des fours, ça sera peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Puis à la sortie du four, vous y parsemez votre persil plat et puis vous accompagnez ça avec une bonne salade de roquettes. Et alors bon, là je suis resté sur quelque chose d'assez équilibré, mais pour les plus férus de protéines, si vous voulez rajouter un tout petit peu de jambon cru ou un petit peu de poulet filoché dessus, c'est une version possible aussi, sans problème.
Oh là là, c'est délicieux, Saligori le compte. La deuxième recette, on va la mettre sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien, puisque voici venue l'heure, Ligori, que vous attendez. Hein, évidemment.
Ah oui, tout à fait.
Venu nous chercher, c'est l'heure des bisous. L'heure des bisous, Ligori le compte. L'heure
exactement.
De vous remercier pour
merci
ces recettes beaucoup. De pizza. Et je rappelle le site cuisineaz.com qui peut vous accompagner pendant ce confinement. Merci beaucoup. Merci Armel Lévy
merci
d'avoir accepté notre invitation de nous avoir à ce point informés. Ce numéro de Nous Voilà Bien s'achève, mais ne soyez pas trop tristes, on se retrouve en replay sur RTL.fr et en podcast sur les plateformes dédiées. Les recettes, quant à elles, sont déjà sur nos réseaux sociaux. On se régale. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine, 9h15, on Nous Voilà Bien. Prenez bien soin de vous, passez un très beau week-end. À l'écoute d'RTL, je vous embrasse.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.